bienvenue à Potin Scientifique, un podcast qui vous aide à réviser et surtout à comprendre. Au micro, Maya, Daniel, Inès et Andreas. Aujourd'hui, nous vous expliquerons le fonctionnement de notre audition à travers d'une scène banale. Nous sommes tous passés par là. Ce jour, avant l'examen, où on panique et on demande à nos potes qui ont tout compris de nous l'expliquer.
Les gars, ce n'est pas possible. L'examen d'enseignement scientifique, c'est demain et je n'ai rien compris au chapitre.
Tranquille, moi je ne suis pas stressé. Hier, j'ai lu un article sur l'IA de Sony, la Flow Machine. Elle a composé une chanson toute seule après avoir analysé 130 000 partitions.
Mouais, composer toute seule, c'est un peu exagéré. Une machine ne comprend pas ce qu'elle fait, elle recalcule juste des motifs.
Oui, mais c'est du deep learning. Elle repère des motifs, des gammes, des progressions d'accords. Un peu comme notre cerveau quand on apprend la musique.
Super, mais moi ce que je veux, c'est comprendre comment fonctionne mon oreille, pas celle de Sony et le robot.
Attends, du coup elle écoute des sons et elle a un cerveau musical comme nous ?
Pas exactement, elle traite des données, mais n'a ni oreille, ni émotion.
Parfait, je prends le micro. L'oreille, c'est une machine biologique ultra ingénieuse, divisée en trois parties principales. L'oreille externe, l'oreille moyenne et l'oreille interne.
Daniel, détaille-moi ça étape par étape, avant que je panique.
Autre sujet, l'oreille et la perception du son. Daniel, explique-nous.
L'oreille externe commence avec le pavillon, qui capte les ondes sonores et les dirige vers le conduit auditif. Ce conduit concentre le son sur le tympan, qui vibre selon la fréquence et l'intensité du son.
Attends, fréquence et intensité, c'est quoi exactement ?
La fréquence est le nombre de vibrations par seconde, elle est mesurée en Hertz. Le plus c'est élevé, le plus le son est aigu. L'oreille humaine entend de 20 Hertz à 20 000 Hertz. Les basses d'un concert sont entre 50 et 60 Hertz. Les aigus d'une cymbale sont entre 15 000 Hertz et 18 000 Hertz.
Et l'intensité alors ?
L'intensité, qui est mesurée en décibels, correspond au volume.
Attention, le son est une onde mécanique, il a besoin d'un milieu pour se propager. Dans l'air, l'eau ou un solide, ça va. Dans le vide, comme dans l'espace, rien ne bouge, donc silence. Par contre, la lumière, c'est une onde électromagnétique. Elle peut voyager dans le vide. Donc si tu cries dans l'espace, silence total.
Donc mes potins dans l'espace, personne ne les entend ?
Andreas, concentre-toi !
Le tympan transmet ensuite les vibrations à l'oreille moyenne, composée de trois petits os. Le marteau, l'enclume et l'étrier. Il transforme les vibrations du tympan en mouvements mécaniques précis et amplifie le son pour que la cochlée puisse réagir correctement. La trompe d'Eustache équilibre la pression entre l'oreille moyenne et l'extérieur, d'où le pop quand on bâille dans un avion.
Et si un os est cassé ?
Alors là, ça entraîne une perte auditive mécanique. On peut parfois réparer avec une prothèse.
La cochlée, en spirale, est remplie de fluide, contient la membrane basilaire et des cellules ciliées. Quand le fluide vibre, les cils se courbent, ouvre des canaux ioniques et crée un signal électrique transmis au nerf auditif.
Donc le son devient de l'électricité ?
Exact, mais pas des électrons littéraux, juste un signal électrique que le cerveau interprète.
Ensuite, le signal arrive au noyau cochléaire qui analyse la fréquence et l'intensité. Puis il est transmis au cortex auditif primaire, dans le lobe temporal, où le cerveau commence à reconnaître des sons et des mélodies.
Et les frissons qu'on peut avoir avec une chanson triste ou joyeuse ?
L'amygdale évalue la charge émotionnelle. Le cortex préfrontal donne du sens et l'hippocampe relie la musique au souvenir. C'est pour ça qu'une chanson peut te ramener exactement à un souvenir précis.
Et si quelqu'un subit un AVC, certaines zones peuvent être lésées. Par exemple, une lésion bilatérale de l'amygdale peut empêcher la personne de ressentir la musique normalement. Elle entend les sons, mais elle ne peut plus percevoir l'émotion associée. On appelle ça la musicalité.
Donc la musicalité dépend vraiment de ces circuits précis.
Même mes potins sont codés dans l'amygdale.
Toujours.
Passons aux lésions et aux risques sonores.
Alors l'oreille, aussi ingénieuse soit-elle, a ses limites. Les cellules ciliées de la cochlée, qui sont responsables de transformer les vibrations en signaux électriques, peuvent être endommagées par un son trop fort ou trop prolongé.
Les cellules ciliées, ça ressemble à quoi ?
Ce sont des petits poils microscopiques. Quand le liquide de la cochlée vibre, il se déplace, ouvre des canaux ioniques et envoie un signal électrique au nerf auditif. Si ces cils se brisent, le signal est altéré ou même perdu.
Certaines lésions sont réversibles si elles sont traitées rapidement, mais d'autres sont irréversibles. La presbyacousie, c'est la perte auditive liée à l'âge, et souvent aggravée par une exposition prolongée au bruit.
Ah, moi je sais. Voici quelques repères par rapport au risque. Une conversation normale se situe à 60 décibels. Le risque prolongé à partir de 85 décibels. la douleur se ressent entre 120 et 130 décibels. Pour les concerts qui durent de 2 à 3 heures, c'est à partir de 100 à 110 décibels, d'où le risque de la perte auditive. Et quand tu portes des écouteurs pendant une heure, c'est à partir de 95 décibels. Et là, le danger est réel.
Donc même une heure avec mes écouteurs à fond peut être dangereuse.
Oui, surtout si c'est régulier. L'accumulation provoque des acouphènes, des bourdonnements persistants, voire une surdité partielle.
Et si on parlait de la physique du son ?
L'oreille humaine détecte environ 20 Hz à 20 000 Hz. Les sons en dessous, c'est des infrasons. Au-dessus, c'est des ultrasons. Utiles en médecine ou sonar, mais inaudibles pour nous.
Donc quand on va en boîte, on subit vraiment une onde physique, pas juste le volume du DJ.
Exact. Si l'exposition dépasse les seuils recommandés, les cils de la cochlée se cassent et le signal devient incomplet, ce qui provoque une perte auditive ou des acouphènes.
Et même si tu baisses le volume, après plusieurs heures, les cellules mortes ne repoussent pas.
Donc la prévention, c'est clé.
Musique et mathématiques, c'est quoi le lien ?
La musique, c'est des maths. On peut tout mettre en équation.
Sérieux ? Comment ça ?
En fait, les sons sont des vibrations. On peut choisir leur vitesse, leur hauteur, juste avec des nombres.
Donc si on change les nombres, on change la note.
Exactement. Une fréquence plus grande, un son plus aigu. Une plus petite, un son plus grave.
Et pour le rythme, c'est aussi des maths ?
Oui, totalement. Les rythmes, ce sont juste des fractions. Une noire, c'est un. Une croche, c'est un demi. Une double croche, un quart.
Donc on peut composer un morceau juste en organisant des nombres ?
Exactement. C'est pour ça que dans les logiciels de musique, tout est basé sur des calculs.
Trop bien ! Donc, les maths ne servent pas qu'aux devoirs, elles servent aussi à créer des sons.
En parlant de maths, l'autre jour, j'ai vu un TikTok sur les IA comme Deep Artificial Composer qui a créé des partitions originales en quelques minutes. Amadeus Code génère des compositions uniques à partir des succès passés via une application mobile.
Donc, elle écoute et récrée en se basant sur les maths.
Exact, mais sans émotion ni vécu. Elle repère des motifs, des accords, des timbres pour provoquer l'émotion chez l'auditeur.
Elle peut émouvoir, mais pas créer avec une intention humaine.
Flow Machine, Watson Beat, Amadeus Code, ce sont des œuvres émotionnellement puissantes, mais elles copient et recombinent. Mais elles ne créent pas avec un contexte culturel ou personnel.
Si je frissonne, c'est créatif ?
Émotionnellement efficace, mais pas d'intention humaine.
Maintenant, on va préparer la dissertation.
Moi, je suis pour l'IA. L'IA peut provoquer des émotions et rivaliser techniquement.
Moi, je suis contre l'IA. L'IA ne ressent pas. Elle crée sans intention, sans vécu, sans histoire personnelle.
Thèse nuancée, l'IA peut surprendre et déclencher des émotions, mais la créativité humaine reste insubstituable par l'expérience et l'intention.
Ok, on va gérer la disserte.
La musique au début du podcast
était générée par l'IA.
Quoi ? Et pourtant j'ai eu la chair de poule.
Voilà le cœur du débat. Émotions réelles ? Création humaine ? Pas forcément.
Ok, merci pour toutes ces explications et merci pour votre participation à notre podcast. C'était Potin Scientifique, rendez-vous dans un prochain épisode.